Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 16 novembre, on a retrouvé Montaigne. Enfin, on l'espère, à Bordeaux, le cercueil du philosophe du XVIe siècle reposerait dans les sous-sols du musée d'Aquitaine après une disparition de plus de 400 ans. Un énième épisode de l'affaire Grégory, la garde à vue de Muriel Boll pourrait disparaître du dossier. Le Conseil constitutionnel considère que pour obtenir ses aveux, ses droits n'ont pas été respectés. Manifester, oui, bloquer un pays, ce n'est pas acceptable. Édouard Philippe prévient une nouvelle fois les Gilets jaunes. Plus de 1500 actions s'organisent dans tout le pays, mais leur étendue reste imprévisible. Le blues des maires de France, 1 sur 2 envisage de ne pas se représenter d'après une enquête du Cevipof, et pourtant, les trois quarts adorent ce qu'ils font. Décryptage à suivre d'un paradoxe. Encore une histoire incroyable dans la route du Rhum. Alex Thompson, qui devait gagner dans la catégorie IMOCA, a heurté une falaise en Guadeloupe après s'être endormi. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
On peut envisager une petite sieste au soleil dans le sud ?
Ah, sur une bonne moitié sud, oui, sur un très très large quart sud-ouest, ainsi que près de la Méditerranée ou encore en Auvergne et en région Rhône-Alpes. Alors certes, près de la Méditerranée aussi, on a aussi un petit peu d'instabilité, ça va se traduire par 2-3 petites pluies cet après-midi entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA, mais vraiment sans gravité, pas des trombes d'eau. Pour la moitié nord, ça va se lever en partie sur la Lorraine, sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, voire aussi vers la Champagne-Ardenne. C'est raté en revanche dans le nord, en Île-de-France, en Normandie, où là la grisaille devrait persister. La Bretagne pourrait aussi récupérer un peu de soleil. Les températures cet après-midi restent à peu près dans le même état que ces derniers jours, avec 16 degrés attendus à Brest et il fera 11 degrés sur Paris ainsi qu'à Dijon.
La question du jour sur RTL.fr concerne les gilets jaunes. Allez-vous manifester demain? Vous êtes très partagés. 45% de oui, 47% de non. Vos appels dès maintenant au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, les 47% de oui, appelez-nous. Les 45% de non.
Appelez-nous aussi.
Aussi pour qu'on sache pourquoi vous manifestez et pourquoi vous ne manifestez pas. Le procès de Tron et le verdict, est-ce que ça vous fait réagir? Et au-delà du verdict, est-ce que cette affaire vous fait réagir puisqu'elle a duré 7 ans et qu'il est aujourd'hui acquitté? Tous les autres sujets, bien sûr, possibles, et notamment Jean-Michel Blanquer qui ne sait pas conjuguer au passé simple le verbe courir. Il a dit il courra au lieu de il couru dans l'émission au tableau de C8.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer ce journal, donc cette question incroyable qui a peut-être trouvé sa réponse, où se trouve le corps de Michel de Montaigne? Le célébrissime philosophe de la Renaissance est mort en 1592, mais c'est seulement aujourd'hui qu'on pense avoir trouvé son cercueil dans le musée d'Aquitaine à Bordeaux, qui était un couvent. Une histoire incroyable, Denis Grandjoux, d'autant que ce cercueil était quasiment à la vue de tous depuis 426 ans.
Oui, c'est un vrai scénario de film. Le décor, un sous-sol d'un musée où je me trouve en ce moment, avec au bout un couloir et une sorte de niche en pierre blanche, placée là depuis des siècles, jusqu'au jour où Laurent Védrine, le conservateur du musée, a une idée de génie.
On a percé deux trous, deux petits trous, pour faire passer en fait une caméra filaire, et on s'est aperçu qu'il y avait un cercueil. Le cercueil en bois portait une mention sur une plaque en cuivre, une mention écrite à l'encre noire, Michel de Montaigne.
Est-ce que c'est vraiment là que se trouve la dépouille? Point d'interrogation. Hein.
Alain Juppé, le maire de Bordeaux et lointain successeur de Montaigne.
Si c'était le cas, bien évidemment, ce serait l'occasion pour Bordeaux de célébrer la mémoire, et plus que la mémoire, le message de Montaigne.
Hélène Reveillas est archéologue, c'est elle qui aura la charge d'ouvrir le cercueil.
C'est vrai que ça va être intéressant de pouvoir comparer ce qu'on sait de lui, ce qu'on voit sur les ossements. Là, c'est assez émouvant de savoir qu'il s'agit peut-être de Michel de Montaigne.
L'opération très minutieuse va démarrer d'ici quelques semaines et on devrait savoir dans le courant de l'année 2019 si ce cercueil est bien celui de l'auteur des essais, mais également de cette formule qui semble bien se prêter à la situation. Encore faut-il pousser une porte pour savoir qu'elle est close.
On peut y méditer, effectivement. Merci Denis Grandjoux. À l'instant, cette nouvelle qui vient de nous parvenir, la peine de perpétuité requise contre Michel Fourniret et son ex-femme Monique Olivier concernant l'assassinat de Farida Amiche. Vous savez qu'il était accusé du meurtre de cette femme. C'est le seul crime crapuleux du tueur en série, et ce afin de s'emparer du magot du gang des postiches. L'affaire Grégory, décidément hors norme, la garde à vue de l'un des personnages clés de cette macabre histoire de famille pourrait être rayée du dossier 34 ans après, celle de Muriel Boll, qui avait accusé Bernard Laroche d'avoir enlevé l'enfant de 4 ans en sa présence, avant de se rétracter. Il y a quelques jours, Muriel Boll, qui se confiait sur RTL à Marc-Olivier Fogiel, était encore très émue.
J'ai eu tellement peur, j'avais peur des gendarmes, ils m'ont menacé une maison de correction, de que je ne verrais plus maman, j'en pouvais plus. Si je n'avais pas eu peur des gendarmes, et je n'avais pas écouté ce qu'ils disaient, Bernard serait encore là. J'y pense tous les jours, ça me fait toujours aussi mal.
Eh bien, ce matin, le Conseil constitutionnel donne raison à Muriel Boll, que vous venez d'entendre, qui n'avait que 15 ans à l'époque, sur les conditions dans lesquelles ses aveux ont été obtenus. Thomas Proutot, qu'est-ce que ça change ?
Alors, dans l'immédiat, rien, mais c'est potentiellement dévastateur pour le dossier. C'est désormais à la Cour de cassation de dire quelles conséquences tirer de cette décision. Et sauf surprise, la haute juridiction devrait annuler le PV de la garde à vue de 1984. Or, c'est là, justement, que sont consignées les accusations de Muriel Boll. Accusation qui l'incrimine, puisque la cousine de Grégory se dit présente au moment de l'enlèvement. Pour l'un de ses avocats, Christophe Ballorin, la décision l'innocente définitivement.
On ne peut pas dire que le dossier s'effondre, et d'ailleurs, il n'est pas souhaitable que ce dossier s'effondre. Muriel Boll est la première à dire qu'il est très important que l'on trouve un jour le coupable. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que l'aspect culpabilité de Muriel Boll s'effondre.
Satisfaction également de l'avocat de Marie-Ange Laroche, pour qui l'innocence de Bernard Laroche est de nouveau démontrée. En revanche, l'avocat des époux Villemain s'inquiète d'une décision qui pourrait nuire à la manifestation de la vérité.
Thomas Proutot, 8 ans de prison requis contre la mère de la petite Serena, surnommée l'enfant du coffre, cette petite fille cachée de tous pendant les deux premières années de sa vie et le plus souvent dans le coffre de la voiture familiale. L'avocat général demande aussi la déchéance de l'autorité parentale sur l'enfant. Philippe de Maria, vous êtes au palais de justice de Tulle.
Oui, l'avocat général Olivier Kern réclame donc une condamnation lourde, 8 ans de prison, pour que l'accusé comprenne que Serena n'était pas un non-événement. Durant les débats, la défense de Rosa Maria a insisté sur le déni de grossesse qui aurait façonné en quelque sorte l'attitude de la mère vis-à-vis de sa fille. Une négligence qui aurait pu être mortelle pour le bébé. Peu de soins, peu de nourriture et très peu d'attention, ce qui a causé des dommages irréversibles chez cet enfant qui aura bientôt 7 ans. Des experts ont déclaré à la barre que Rosa Maria n'était pas consciente de ce qu'elle faisait endurer à son enfant durant presque 2 ans jusqu'à sa découverte fortuite dans le coffre de sa voiture. Son avocate devrait plaider la relaxe cet après-midi. Verdict dans la soirée.
Philippe de Maria à Tulle pour RTL. 2 blessés légers ce matin à Bonneuil-sur-Marne en région parisienne. Après un incendie sur le site d'Air Liquide, 2 fuites sur et à proximité d'un réservoir de 35 000 litres d'oxygène ont fait craindre une explosion. La zone industrielle des Petits Carreaux a dû être évacuée. Le risque diminue désormais d'heure en heure. Après la maîtrise des flammes par les pompiers, nous dit notre reporter Sinamir qui est sur place. Dans un instant, on va tenter de mesurer la mobilisation des Gilets jaunes. C'est une mobilisation inédite que préparent les Gilets jaunes dans toute la France. Demain, la colère partie de la taxe carburant évoque plus généralement le pouvoir d'achat. Et ceux qui vont manifester ne dépendent pour l'écrasante majorité ni d'un parti ni d'un syndicat. Ils bloqueront des routes, des ronds-points, des aéroports, des dépôts de carburant. Les autorités s'attendent à 1500 actions. Mais Olivier Bois, il est extrêmement difficile de savoir au fond à quoi tout ça va ressembler.
Oui, exactement, et ce sont les policiers et les gendarmes d'ailleurs qui sont les premiers à le reconnaître. On ne sait pas dans quelle mesure ces 1500 opérations évoquées vont se concrétiser. On est face à des citoyens lambda, vous le disiez, des gens qui n'ont aucune expérience de manifestation, qui n'ont pas le profil de radicaux violents et qui ne sont pas habitués à devoir gérer une éventuelle confrontation avec la police. Jusqu'où vont-ils aller demain dans les opérations de blocage ? C'est ce qui fera au fond l'ampleur du mouvement. Les plus pessimistes au sein des forces de l'ordre craignent soit que des militants plus radicaux infiltrent les mouvements, soit qu'il y ait des tensions qui pourraient émerger avec des non-manifestants impactés par des blocages. En tout cas, le ministère de l'Intérieur a vu large, une cellule de crise installée place Beauvau et 2000 CRS et gendarmes en alerte, prêts à intervenir sur tel ou tel rassemblement en cas de dérapage.
Merci Olivier. Compréhension mais fermeté, c'est la ligne de l'exécutif face à ce mouvement de colère. Édouard Philippe l'a rappelé ce matin lors d'une visite dans l'Essonne.
Le droit d'expression et le droit de manifester sont en France des libertés et elles seront évidemment respectées. Mais mettre en danger la sécurité, que ce soit d'ailleurs la sécurité de ceux qui manifestent ou la sécurité de ceux qui ne souhaitent pas manifester et qui veulent circuler librement, c'est évidemment également une limite. Nous serons avec le ministre de l'Intérieur, avec l'ensemble du gouvernement, avec l'ensemble des forces de police et de gendarmerie, extrêmement vigilants, respectueux bien entendu des libertés, mais soucieux de garantir un haut niveau de sécurité à nos compatriotes.
Voilà, Édouard Philippe au micro RTL de Quentin Vigneault.
Occasion-mercedes.fr.
RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
C'est ce qu'on appelle une crise de vocation. Un maire sur deux prévoit de ne pas se représenter aux prochaines municipales en 2020. C'est le résultat d'une grande enquête menée par le Centre de recherche de Sciences Po, le CEVIPOF, avec l'Association des maires de France. Nos élus aiment ce qu'ils font.
Engagement 12 mois minimum, détails sur orange.fr.
En tant que chef d'entreprise, j'attends d'une mutuelle qu'elle s'adapte aux besoins de mes salariés, tout simplement.
Aesio, c'est un nouveau groupe mutualiste qui met à la disposition des entreprises des experts en protection sociale pour toujours mieux les accompagner. Car c'est en écoutant les entreprises et leurs salariés que nous trouverons ensemble les solutions qui leur permettront de vivre mieux. Aesio. Décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, 25 Place de la Madeleine, Paris 8e. Orias numéro 160 069 68, aesio.fr.
Leclerc.
Ça, c'est un méchant monstre dans le livre du petit Théo. Et ça, c'est un méchant colorant dans les bonbons du petit Théo.